Vous écoutez, on lit pour vous.
Le pari financier de la grève, un texte de Mégane Roy, paru le 18 novembre 2025 dans la presse. Il y a eu plusieurs grèves cette dernière année. Comment font les grévistes pour vivre financièrement? Quel est le montant des fonds de grève? Y a-t-il des syndicats sans fonds de grève? Qu'arrive-t-il alors financièrement? La perte financière se récupère-t-elle après le retour au travail? Yolande Dumont. Tout dépend de ce qui a été adopté au préalable par l'organisation syndicale qui se retrouve en conflit de travail. Se doter d'un fonds de grève n'est pas obligatoire. Si une organisation syndicale décide d'aller de l'avant et de se constituer un fonds de grève, celui-ci est bâti grâce aux cotisations syndicales payées par ses membres. Au Québec, en vertu du Code du travail, tout employé couvert par une convention collective est tenu de payer ses cotisations. Le montant du fonds de grève et les indemnités versées sont aussi déterminés par le syndicat. Les syndicats locaux font généralement partie de plus grands regroupements syndicaux qui ont, eux aussi, leur façon de fonctionner. Les indemnités versées en cas de grève peuvent varier selon le type de grève, mais aussi la durée. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, rappelle l'épisode du Front commun en 2023. À ce moment, quelques 420 000 travailleuses et travailleurs provenant de quatre grandes organisations syndicales du Québec, APTS, CSQ, CSN, FTQ, étaient en grève dans le cadre de la renégociation des ententes collectives dans la fonction publique. Mais les centaines de milliers de travailleurs étaient exposés à des situations financières bien différentes. Au début de chaque ronde de négociation, les syndicats qui ont des fonds de grève regardent la somme qu'ils ont et, après, s'assurent de donner une somme d'argent qui va faire en sorte que le fonds ne sera pas vidé, résume M. Gingras. Avec la compensation de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, les indemnités équivalaient à 80 % du salaire de base pour les 10 premiers jours et 70 % pour les journées subséquentes, à condition de faire du piquetage. Plusieurs syndicats d'enseignants au sein de la CSQ, à l'inverse, n'avaient jamais constitué de fonds de grève et n'ont reçu aucune indemnisation. Mais pourquoi avoir fait ce choix? Si on regarde les 30 ans qui ont précédé cette grève, il n'y a eu que quelques journées de grève dans le secteur public, remarque M. Gingras. Habituellement, ce n'était pas un enjeu dans le secteur public de ne pas avoir de fonds de grève parce que les grèves étaient très courtes, donc la majorité se disait « si je pars 3 jours, ce n'est pas plus grave que ça », explique-t-il. Perte financière. Il est très rare qu'un syndicat verse des indemnités de grève équivalent à 100 % du salaire d'un employé, note M. Gingras. Autrement dit, pendant une grève, les employés syndiqués enregistrent presque toujours une perte financière. Mais il s'agit d'un levier pour la suite, explique M. Gingras. On a des économistes à la CSQ qui leur démontrent « Si on vous propose de faire une journée de grève, voici, selon nos calculs, les prévisions. Vous allez perdre un montant X, mais si on réussit à faire modifier l'offre salariale de tel montant, de tel pourcentage à tel pourcentage, voici le gain. Voici comment ça se traduit sur un an, sur 10 ans, sur votre carrière, etc. » Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, CSQ. Autrement dit, le renflouement des pertes financières se réalise par le gain obtenu à la suite des négociations. C'est le pari qu'impose une grève. Il peut arriver, parfois, que le gain soit moins important. C'était le cas dans certaines grandes négociations au tournant des années 2000, se rappelle M. Gingras. Habituellement, ce que les membres nous demandent, c'est « je ne veux pas faire la guerre pour rien ». Et ça, c'est notre travail de le démontrer de façon transparente, assure M. Gingras. C'était « Le pari financier de la grève », un texte de Mégane Roy, paru le 18 novembre 2025 dans la presse.
Avoir un chum, est-ce rendu gênant? Un texte de Florence Dancause, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse. Un article d'opinion du magazine Vogue, publié récemment, a soulevé les passions sur les réseaux sociaux. La chroniqueuse posait la question « Est-ce embarrassant d'avoir un petit ami de nos jours? » Si le texte fait état d'une critique de l'hétérosexualité par des femmes, un phénomène remarqué par des expertes consultées par la presse, il peut aussi accentuer les divisions entre les hommes et les femmes, souligne l'une d'elles. La chroniqueuse du Vogue donne plusieurs exemples de ce changement de posture des femmes hétérosexuelles. Elle remarque que plusieurs d'entre elles n'affichent plus leurs relations amoureuses au grand jour sur les réseaux sociaux, mais le font en de subtils clins d'œil. Une main sur le volant, l'arrière d'une tête ou un tintement de verre. Elle avoue avoir mis elle-même en sourdine des femmes qui s'affichent ouvertement avec de nouveaux partenaires. Elle fait aussi état du sentiment de culpabilité que plusieurs femmes ressentiraient en étant avec un homme et cite une animatrice du balado américain « Delusional Diaries » qui se demandait carrément si avoir un copain était rendu minable. Une ère de l'hétérofatalisme. La professeure de sociologie de l'UQAM, Chiara Piazzesi, qui étudie les relations de couple et l'intimité amoureuse, avoue avoir été un peu étonnée par les propos de l'article. Or, elle remarque que ce scepticisme par rapport aux rêves romantiques est bien présent chez les femmes hétérosexuelles. La chroniqueuse du Vogue montre elle-même du doigt le discours ambiant d'hétérofatalisme où les femmes sont désillusionnées et résignées face à leurs relations avec les hommes. Ça devient quasiment une forme de performance d'une féminité éduquée et hétérosexuelle que de savoir articuler une critique de l'hétérosexualité, de l'oppression des femmes, des inégalités, souligne Chiara Piazzesi. Mais ce n'est pas pour rien, croit l'autrice et journaliste Elisabeth Massicoli. On est au courant du labeur et des risques que ça implique, être dans une relation avec un homme, signifie-t-elle. Que ce soit une charge mentale alourdie ou même de la violence conjugale, le jeu ne vaut pas toujours la chandelle, dit-elle. D'être et de s'afficher avec un homme et de participer à cette dynamique de couple hétérosexuel peut ainsi paraître incohérent. L'image de la vieille fille a été du même coup redorée, indique la sexologue Laurence Desjardins, ce qui se révèle positif, croit-elle. Avant, on la regardait avec une certaine forme de pitié, et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose à quoi on aspire. De la tranquillité, du calme, du développement personnel, ajoute Elisabeth Massicoli. Est-ce vraiment honteux? Pour l'autrice, être en couple ou chercher un partenaire est loin d'être honteux. Il ne faudrait pas non plus tomber dans le « victim blaming », puis dire « c'est ta faute si ton chum n'est pas fin », indique-t-elle. La personne qui pourrait éprouver de l'embarras serait plutôt l'homme qui ne participe pas à une relation amoureuse égalitaire, croit-elle. La sexologue Laurence Desjardins s'inquiète toutefois des dérives du discours d'hétérofatalisme. Celui-ci pourrait nourrir le fossé grandissant entre les hommes et les femmes. « Je reconnais les blessures de tant de femmes », souligne la sexologue, mais elle croit fermement qu'il ne faut pas généraliser les comportements des hommes. Après, ça donne de l'armement à toute la communauté incel, à toute la communauté masculiniste. Ça l'arme-t-elle. Pour elle, avoir honte d'être en couple avec un homme est loin d'être une solution pour le vivre ensemble. Elle croit plutôt que des modèles positifs et sains de masculinité devraient être mis de l'avant. « Moi, je veux voir ton chum qui est là pour toi, qui rit avec toi. Je ne veux pas que tu l'effaces, ton chum », plaide Laurence Desjardins. La sociologue Chiara Piazzesi pense qu'une autre raison pourrait aussi se cacher derrière les relations amoureuses moins manifestes sur les réseaux sociaux. Il pourrait y avoir une certaine hésitation à considérer une relation à ses débuts comme étant quelque chose d'acquis, parce qu'il y a toujours une série d'étapes plus longues, comme la fameuse « situationship », dit-elle. Ce phénomène est lié à un nouveau discours sur la fragilité des relations intimes, comme quoi les relations sont plus superficielles et éphémères, qui n'est pas vraiment appuyé par des chiffres, dit-elle. Les taux de mariage et de divorce sont plus ou moins stables, indique Chiara Piazzesi. Il n'y a pas vraiment de transformation majeure des relations intimes. Les gens cherchent encore à se mettre en couple. C'était « Avoir un chum, est-ce rendu gênant? » Un texte de Florence Dancause, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse.
Qualifiée pour la Coupe du Monde, l'équipe haïtienne multiplie ses appels à la paix. Un texte de Félix Deschênes, paru le 21 novembre 2025 dans Le Devoir. La poussière est retombée après la qualification de l'équipe d'Haïti pour la Coupe du monde de soccer le mardi 18 novembre 2025 au soir. Mais la victoire historique des Grenadiers continue de faire vibrer la diaspora en sol québécois avec sa forte symbolique et son poids politique. On parle de ça depuis des années et enfin c'est arrivé. C'est un gros sentiment de soulagement, a avoué le défenseur haïtien Garven Miché Metouzala, joint par Le Devoir à Colorado Springs quelques jours après la victoire de 2-0 contre la sélection nicaraguayenne qui a donné à Haïti son premier laissez-passer pour la Coupe du monde en 52 ans. Ce match très stressant, Metouzala l'a vécu depuis le banc des joueurs en tentant frénétiquement de connaître le score du match opposant. En parallèle, le Costa Rica au Honduras, qui aurait pu signaler la fin de parcours des siens. Mais le match nul a finalement confirmé la qualification des Grenadiers au Mondial, qui aura lieu à l'été 2026 simultanément au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Fait particulier, le match Haïti-Nicaragua était disputé à Willemstad sur l'île de Curaçao, puisque la formation haïtienne n'a plus accès à son stade depuis 4 ans, désormais occupé par les gangs. Quelques jours à peine avant la victoire des Grenadiers, des affrontements entre les forces de l'ordre et les gangs, Vive Ensemble, Vivre Ensemble, avait forcé la fermeture des écoles et paralysé les transports dans la capitale. Les scènes de liesse observées à Port-au-Prince revêtaient ainsi une signification particulière. C'est donc, sans ne jamais avoir pu y mettre les pieds, que Garven Miché Metouzala représente aujourd'hui le pays d'origine de sa mère. Mais celui qui a grandi à Terrebonne avoue ne pas y avoir réfléchi à deux fois lorsqu'il a eu l'occasion de vêtir l'uniforme des Rouges et Bleus. Deux autres Québécois, l'avant-central Ruben Spacius et le gardien Josué Duverger, ont fait un choix similaire. Ruben Je le connais depuis l'époque de l'Académie de l'Impact de Montréal, quand j'avais environ 13 ans. Et j'ai des photos avec Josué qui remontent à quand on avait 9 ou 10 ans. Reprendre une photo avec lui 16 ans plus tard, après avoir qualifié le pays en Coupe du Monde, c'est juste incroyable. L'héritage de Mano Sanon. Il faut remonter à 1974 pour retracer la seule autre qualification des Grenadiers. L'équipe d'Emmanuel Sanon entrait dans la légende, devenant la première équipe caribéenne à atteindre la Coupe du Monde et poussant l'audace jusqu'à défier les Italiens. Impossible pour quiconque ayant grandi au sein d'une famille haïtienne depuis de ne pas avoir entendu parler des prouesses de Mano. Mano Sanon, c'est un dieu chez nous, résume Paul Hector Boussico, qui a vu le duel contre l'Italie avec sa famille en direct de la télévision chez sa tante à Port-au-Prince. J'avais 9 ans et je m'en rappelle encore, avoue l'ingénieur qui vit aujourd'hui en banlieue de Montréal. Quand l'équipe nationale joue, c'est comme si la Terre arrête de tourner. C'est l'un des seuls souvenirs d'ailleurs que je garde d'Haïti. Franz Touraine, lui, avait la mi-vingtaine et écoutait le match dans une foule à l'aréna Paul Sauvé de Montréal quand Sanon est parti en échappée. Il a reçu une passe lumineuse de Philippe Vorbès, a fait un crochet pour déborder le gardien Dinosoff et a marqué dans un filet vide. C'était l'euphorie, relate avec enthousiasme ce malade de football autodiagnostiqué. Aujourd'hui, à la barre d'une émission consacrée au ballon rond sur les ondes de Radio Centre-Ville, M. Touraine dit avoir vécu une émotion similaire au soir du mardi 18 novembre 2025. Espoir de changement. Dans les heures qui ont suivi le match, la qualification a rapidement pris une tournure politique. Au milieu des célébrations, plusieurs vétérans de la formation ont appelé à la fin des violences en Haïti, toujours terrassées par les meurtres, les enlèvements et les viols. « Ove PIA » ont-ils scandé dans une vidéo en direct, donnant naissance à un élan sur les réseaux sociaux pour rouvrir le pays. Ouvrez les routes, ouvrez les aéroports, relancez le commerce, laissez les gens vivre, laissez-nous rentrer chez nous. A imploré l'attaquant d'Oukens Nazon. Je me joins au peuple. Je fais entendre ma voix pour ce mouvement. Garvin Metuzala cite l'exemple de l'équipe ivoirienne de 2005 qui, sous l'impulsion de la vedette Didier Drogba, avait pris la parole en marge de sa qualification et contribué à un cessez-le-feu en pleine guerre civile. Aujourd'hui, les yeux sont rivés sur nous avec notre qualification et là, on a le sentiment que ça va bouger. On espère qu'on pourra enfin retourner en Haïti. Avec la musique, il n'y a pas grand-chose qui pourrait réunir les Haïtiens autant que les Grenadiers, avance Paul Hector Boussico. Mais je ne pense pas que les bandits vont s'arrêter parce que des vedettes l'ont demandé, tempère-t-il. Franz Touraine dit espérer que l'événement puisse donner une chance à la population haïtienne qui vit dans la misère. Avec cette victoire haïtienne, je pense que c'est une fois de plus une prise de conscience pour essayer d'améliorer la situation politique et sociale en Haïti. Parce qu'avec cette victoire, le drapeau haïtien va flotter partout sur la planète. C'était qualifiée pour la Coupe du Monde, l'équipe haïtienne multiplie ses appels à la paix. Un texte de Félix Deschênes, paru le 21 novembre 2025 dans Le Devoir.
Lui, c'est le Good Cop, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 5 octobre 2025 dans la presse. Hugo Larochelle a de grands souliers à chausser. Après Joshua Bengio, fondateur de l'Institut MILA, il devient à son tour directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Si celui dont l'IA a bouleversé la vie est conscient du défi, rien ne laisse croire qu'il est intimidé, a constaté notre chroniqueur. Comment succède-t-on à une légende ? Hugo Larochelle vient d'être nommé directeur scientifique de MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle. Ce poste était occupé jusqu'ici par Joshua Bengio, sommité mondial, qui a fondé ce centre de recherche qui lui a permis d'acquérir une renommée internationale. C'est un peu l'équivalent de prendre la relève de Steve Jobs chez Apple ou de Carey Price chez le Canadien. C'est une très grosse commande. Pourtant, si Hugo Larochelle est conscient du défi, rien ne laisse croire qu'il est intimidé. Assis dans un minuscule café de la rue Saint-Zotique-Ouest, à quelques dizaines de mètres des bureaux de MILA, il n'a pas l'air le moins du monde d'avoir le trac. On a besoin de plus d'intelligence, pas moins, affirme-t-il, pour résoudre les défis d'aujourd'hui. Et l'IA, c'est un outil pour mettre plus d'intelligence dans notre société. Cette idée le motive depuis qu'il est au doctorat, précise-t-il. Et comme l'intelligence artificielle est plus accessible et plus utilisable que jamais, il est convaincu qu'il y a actuellement une occasion à saisir et qu'elle est historique. Hugo Larochelle ne vous explique pas ça de façon intéressée, comme un entrepreneur qui cherche à vous vendre quelque chose. Avec ses airs d'éternel étudiant, à la Joseph Gordon-Levitt, il semble vraiment débordé d'enthousiasme. Un peu comme s'il vous annonçait qu'il vient de s'inscrire à un nouveau programme universitaire qui le passionne. C'est vraiment stimulant. J'ai vraiment beaucoup d'énergie, lance le chercheur. À MILA, on est là pour former la main-d'œuvre qui va pouvoir stimuler notre économie. On a aussi un rôle à jouer pour la création de nouvelles entreprises et un rôle pour démystifier ça et pour s'assurer que le public se sente outillé. Relevons nos manches. Il faut savoir aussi que ce changement se fait sous certains aspects dans la continuité, mais pas sous d'autres, et j'y reviendrai. Car Hugo Larochelle est lui-même un des émules de Joshua Bengio. Dès la première année de son baccalauréat en informatique, il a tenté de décrocher un stage dans le laboratoire du prestigieux chercheur. « Je n'avais pas assez de mathématiques encore. » Alors il a dit « Reparle-moi l'année prochaine. » J'ai fait un stage l'année suivante et là, j'ai pogné la piqûre. Il y avait tellement de concepts intéressants, mystérieux, fascinants que je n'ai jamais arrêté de pousser, dit-il au sujet de l'intelligence artificielle. Joshua Bengio a aussi été par la suite le directeur de sa thèse de doctorat à l'Université de Montréal. Hugo Larochelle a également étudié avec le prix Nobel Geoffrey Hinton, lui aussi considéré comme l'un des grands parrains de l'intelligence artificielle, à l'instar de Joshua Bengio. Si l'IA semble en voie de transformer nos sociétés, elle a déjà, au cours de la dernière décennie, profondément bouleversé la vie d'Hugo Larochelle. En 2014, alors qu'il enseignait au département d'informatique de l'Université de Sherbrooke, il a cofondé une start-up baptisée WetLab, dans le but de permettre aux entreprises d'automatiser la configuration d'un système d'intelligence artificielle. Cette jeune pousse a été rachetée par Twitter en 2015 et le chercheur a brièvement déménagé à Boston avec sa famille. Il est le père de 4 enfants. Puis, dès 2016, courtisé par Google, il a contribué à l'implantation d'un laboratoire de recherche en intelligence artificielle de ce géant américain à Montréal, dont il a pris la tête. J'avais toujours une pensée. Quand je faisais mon doctorat, si j'avais voulu avoir une job comme ça dans un lab de haute technologie, il aurait fallu que j'aille aux États-Unis. Je n'avais pas vraiment le choix à ce moment-là, explique-t-il. Par conséquent, ce qu'il voulait à l'époque, c'était contribuer à notre écosystème local. Il le souhaite toujours. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a posé sa candidature au poste de directeur scientifique de MILA. Car redonner est, de toute évidence, quelque chose qui fait partie de sa philosophie de vie. Il y a 3 ans, avec sa conjointe Angèle Saint-Pierre, il a fait un don de 1 million de dollars à l'Université de Montréal. La somme a permis de créer une bourse annuelle de 40 000 dollars offerte à des étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle en lien avec les enjeux environnementaux. La réalité, c'est que j'ai une vie professionnelle extraordinaire, dit Hugo Larochelle. Je ne rêvais même pas de ça quand j'étais étudiant. Ça fait que je me sens aussi un devoir de redonner à MILA en m'impliquant moi-même et à l'Université de Montréal où j'ai été formée. Il ne le crie pas sur les toits, mais il donne aussi un coup de pouce à Centraide depuis une demi-douzaine d'années. Il est impliqué dans l'organisation d'un événement bénéfice pour la communauté technologique de Montréal. Lorsqu'il parle d'intelligence artificielle, Hugo Larochelle met aussi beaucoup l'accent sur les changements positifs qu'elle peut provoquer dans notre société. On était curieux de savoir c'est quoi l'intelligence. Et une façon de creuser cette question était d'essayer de l'implanter et de la simuler dans un ordinateur. C'est fascinant d'un point de vue scientifique, mais je pense qu'on voulait avoir un impact positif sur le monde, toutes les sphères incluses. L'économie, la science et ainsi de suite, explique le chercheur. Et là, on sent que c'est comme à portée de main. On voit déjà des choses qui se font et qui sont extraordinaires, et on voit que d'autres contributions positives peuvent être faites aussi. Joshua Bengio n'a jamais nié que l'intelligence artificielle allait permettre des avancées positives, mais il a déployé beaucoup d'énergie ces dernières années pour mettre tout le monde en garde quant au dérapage potentiel de cette technologie. Le célèbre chercheur a d'ailleurs cédé sa place comme directeur scientifique de Mila pour se consacrer à une nouvelle organisation, Loi Zéro, dans le but de concevoir des systèmes d'intelligence artificielle sécuritaires. Au sujet des dangers potentiels de l'IA, Hugo Larochelle adopte ce qu'il décrit comme une posture de vigilance. Mais on sent bien que ce n'est pas ce à quoi il va consacrer le plus clair de son temps. Et c'est probablement de cette façon qu'il va se démarquer de Joshua Bengio. Si ce dernier jouait davantage le rôle du bad cop, Hugo Larochelle a pour sa part davantage l'air du good cop. Hugo Larochelle affirme « Je pense que c'est important de ne pas manquer le bateau de l'opportunité maintenant en se préoccupant trop de ce qui pourrait peut-être arriver, mais aussi peut-être ne pas arriver. » Hugo Larochelle précise que certains des quelques 1500 chercheurs de Mila vont explorer les angles morts des développements de l'IA, à l'exemple de Joshua Bengio et de sa nouvelle équipe de Loi Zéro. Mais il faut aussi mettre des efforts pour explorer des applications positives, bénéfiques, autant sur le plan scientifique que pour nos contributions à l'écosystème des jeunes pousses qui émergent et forment le talent pour le reste de notre économie. Son souhait, dit-il, c'est qu'on puisse tenir deux discussions en même temps. L'une sur les risques potentiels liés à l'avenir de l'IA, l'autre sur ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est de toute évidence cette deuxième discussion à laquelle Hugo Larochelle souhaite contribuer davantage en tant que directeur scientifique de Mila. Qui est Hugo Larochelle ? Naissance à Sherbrooke en 1981, ses parents habitaient alors Asbestos. Il obtient son baccalauréat en sciences informatiques et mathématiques en 2004 à l'Université de Montréal. Il obtient son doctorat en 2009, également à l'Université de Montréal. Son directeur de thèse était Joshua Bengio. Il est cofondateur de l'entreprise WetLab, achetée par Twitter en 2015. Il dirige le laboratoire montréalais de Google DeepMind de 2016 à 2025. Il entre en fonction en septembre 2025 comme directeur scientifique de MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle. C'était « Lui, c'est le Good Cop », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 5 octobre 2025 dans la presse.